Alors, cette petite route,
soudée, sous le soleil, trop génial. Et on atteint notre objectif, incroyable, encadré. On l'avait imaginé, mais plutôt
plus compliqué.
Dans le rêve.
Ouais.
Mais à la fois, il nous laisse vraiment avancer. Moi, la mère du dernier halte me disait, le préfet dit, ils sont déterminés, il faut les laisser et vous devez les accueillir.
C'est magnifique.
On arrive à quelque chose de renversé, en fait.
Oui, parce qu'il y a la sympathie des gens envers les convois, plus les interdictions massives. À un moment donné, ils ont peur que ça se voit un peu trop.
Je pense que justement la presse est une force avec nous parce que le côté médiatique, souvent on va contre l'approche des médias, mais là on peut penser que quand même ça nous a un peu servi. Je pense que cette force qu'on a acquis ici, c'est vraiment une connaissance mutuelle pour aller vers l'avant, vers des événements qui vont sans doute nous occuper encore dans les semaines qui vont venir et les mois. Mais on est confiant parce que franchement, on a, comme on disait tout à l'heure, une image. On s'est mis des petits crochets les uns aux autres qu'on peut décrocher pour être libre, mais des accroches vers une grosse cohorte qui avance vers la suppression de cet aéroport et aussi une réflexion d'un maximum de gens autour qui peut-être se diront « Ah !» Il y a peut-être un autre monde qui est possible avec d'autres réflexions sur les priorités des aménagements, les priorités des politiques qui sont plutôt vers l'humain, tournées plutôt vers l'humain que vers ces destructions massives et environnementales et sociales et pourquoi pas sociétales.
Oui, puis c'est un bel exemple des accords de la population. Quelle que soit l'origine sociale, l'âge, les modes même de militance où il y a un vrai respect.
Alors, vrai respect, justement, on a appris à se connaître. Je dirais que c'est dans les assemblées générales qui ont précédé cette mise en place de la COP que les reconnaissances se sont faites. Avec au début vraiment tête en point d'interrogation, tu dis ça et tu dis ça de quel point de vue et de quelle partie tu parles, de quel coin tu parles. Mais là, dès le départ, les enjeux étaient clairs et les différentes composantes du mouvement étaient vraiment prêtes à travailler ensemble, en fait.
Oui, bien au-delà des étiquettes et du principe fort qui nous réunit, quoi, d'être humain sur une même planète.
Totalement, parce que cette force des occupants, cette force et détermination des paysans, et puis appuyé par toutes ces organisations citoyennes autour, politiques et syndicales, ça nous donne quelque chose qui est une force du mouvement qui nous est drôlement enviée par d'autres luttes.
Mais qui est un bon exemple à suivre.
Plutôt un bon exemple, et cet été encore dans le rassemblement d'été, c'est vrai que le rassemblement des luttes donne, chaud au cœur à tous ceux qui observent le déplacement des priorités de la société d'aujourd'hui qui interroge beaucoup. Mais ce qui est super, c'est que ça n'interroge pas seulement que les gens qui ont le recul en regardant derrière, mais ça interroge d'autant plus les jeunes qui ne veulent pas aller dans ce monde-là.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont... on est tous concernés par l'avenir du climat, même si on est grand-mère, ne serait-ce que de s'inquiéter pour...
J'irais même plus loin que ça, c'est même pas que s'inquiéter pour le climat, c'est qu'il faut réellement changer de braquet complètement et être sûr de la conscience que de toute façon, de manière équivoque dans notre convoi, il y a trop de voitures par rapport au nombre de participants. C'est-à-dire que chacun de nous-mêmes, il faudrait qu'on réfléchisse. Il y a trois approches sur lesquelles il faut réfléchir. À chaque fois, COP21, les enjeux sont importants et le climat, c'est très important. C'est vrai que c'est chacun qui doit agir, mais individuellement, les éco-gestes et tout, ça permet de se poser des questions.
À son niveau.
Oui, à son niveau. Par contre, c'est bien des organisations qui permettent aussi une réflexion un peu plus globale et un peu plus de partage, en fait, d'idées et d'actions communes. Et puis ben, l'approche politique après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est comment on traduit ça et comment on dit aux politiques qu'on ne veut pas cette politique-là ou l'autre parce que notre société, elle est aujourd'hui organisée et on ne peut pas laisser faire n'importe quoi.
Elle est organisée même contre les populations, on a l'impression.
Oui. Justement, donc comment, je dirais, pour ce climat, il faut que chacun se pose la question de quelle organisation je veux pour la société pour qu'on puisse passer à un autre niveau et avec des choix draconiens pour nos sociétés et l'ensemble des sociétés de la planète.
Draconien est nécessaire.
Tout à fait, parce que si on n'associe pas notre... Enfin bon, on est en COP21 en France, oui, mais l'approche internationale... moi, me paraît essentiel, c'est-à-dire que si pendant la COP21, les gens ne réalisent pas que nos choix à nous impactent l'ensemble de la planète et l'ensemble des populations, ben en fait, du coup, je dirais, moi, le message et l'intérêt que la COP21 se passe en France, elle sera mineure si beaucoup de gens n'ont pas réalisé que c'est ça l'enjeu de demain, c'est qu'il faut qu'on soit tous solidaires de l'ensemble, sur l'ensemble de la planète, quoi. Donc,
surtout que quand tu lis les médias étrangers, c'est assez drôle d'y découvrir que tout le monde s'est félicité que ce soit en France, parce que la France est un des plus gros pays pollueurs et que ça en France n'a pas été forcément relié, mais les médias étrangers l'ont bien spécifié, ne serait-ce que pour la présence des groupes, des multinationales en Afrique et tout, parce que c'est les mêmes sujets. Ouais. Le nucléaire, l'uranium, il est au Niger et tout ça. Et
voilà, moi je crois qu'on ne peut pas considérer que la France, elle est effectivement la pollution de la France sur son territoire, mais il faut prendre en compte l'ensemble du schéma et de la ramification internationale qui m'écœure en tant que telle, et tout ce que ça produit sur les éléments. Je suis d'accord, nos centrales nucléaires, elles ne peuvent fonctionner que parce qu'on exploite des terres, et donc des territoires dont on n'a pas, en théorie, aucun droit, parce qu'on n'a pas de droit sur cette terre. Il faudrait que chacun décide, comme on décide dans les AG ici. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un consensus pour dire, voilà, de manière raisonnable, eh ben, nos besoins sont là, eh ben, voilà, on va pouvoir exploiter cette partie-là. Et on devrait pouvoir le décider ensemble, alors que là, ce sont les multinationales qui avec les bénédictions des États, ben, je dirais, gangrènent toute la... En dehors de... Alors, pour le côté français, en dehors de l'Hexagone. C'est-à-dire qu'on part de cet Hexagone, mais toutes les sociétés...
Alors, la pollution des eaux en Guyane, par exemple, pour l'or. Tous les cours d'eau sont foutus.
Bon, et puis on peut aussi partir de tout ce qui est en Afrique, hein, au niveau de toutes les importations de tout le matériel désuet qui est voulu en France, l'idée des dépotoirs dans les pays. Et puis c'est surtout, moi, ce qui me marque le plus encore, c'est en lien avec notre combat de Notre-Dame-des-Landes, c'est l'accaparement des terres. Et cet accaparement des terres aujourd'hui pour des objectifs qui sont mondialisés.
Et obsolètes en plus.
Alors, obsolètes, oui, mais parce que déjà dépassées. Mais oui, mais c'est grave, parce que si on accapare, et donc déjà on sent que ça ne produira pas l'effet que ceux imaginent en les accaparant, on va vraiment vers des catastrophes. Donc il faut, et toute cette jeunesse-là, il faut qu'elle... Enfin, et avec tous, hein, mais entre autres, qui portent cet élan vers... plus de responsabilité par rapport à celui qui est à côté de moi, la terre qui est sous nos pieds, et puis ceux qui la cultivent et qui la font avancer pour un vivre ensemble, en fait.
Parce que tu parles d'accaparement des terres, ouais. Mais c'est ça, c'est souvent les meilleures terres agricoles d'un coin, et l'autosuffisance alimentaire, c'est la question de demain, la question de l'eau et tout ça.
Tout à fait. Alors l'eau, l'alimentation, mais on oublie souvent l'air. Et en fait, aujourd'hui, on est parti aussi sur l'approche... Parce que ça y est, même dans les militants, le côté accaparement des terres, le sol, ça devient, c'est reconnu par beaucoup comme un bien commun. Mais il faut faire passer ce mot-là. Donc le sol, bien commun. L'eau, bien commun. Mais l'air, aujourd'hui, on a de plus en plus dans nos sociétés occidentales et ailleurs des gens qui souffrent de dysfonctionnements physiologiques en lien avec cette pollution de l'air. Et là, pareil, je dirais le sol, on dirait le sol est pollué là, donc on le circonscrit. L'eau, on va tenter de la nettoyer, mais l'air, on ne la nettoiera jamais.
Oui, et puis c'est tout le truc à inverser où c'est comme si la terre leur appartenait, alors que nous, on appartient à la terre. Il y a vraiment une inversion à faire.
Tout à fait. Et cette notion de lien l'homme et la nature. Je crois que l'homme a souvent été séparé de la nature. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer ça, c'est qu'on n'est qu'un être vivant parmi les autres et que ben, le bien vivre ensemble, ce n'est pas le bien vivre ensemble seulement entre les humains, mais c'est en cohérence avec la nature qui nous nourrit, qui nous...
Sa diversité.
Voilà, la diversité de tous les êtres vivants. Il y en a même qui vont dire, oui, donc on accepte les animaux, mais pas les plantes. Mais j'ai dit, si, tous, parce que c'est bien...
Le minéral, le végétal, l'animal, tout l'humain.
Et le microbien et tout le reste.
Peut-être leur habitude de hiérarchiser, toujours à remettre en vertical aussi.
Oui, je pense qu'il faut...
L'homme au-dessus, parce que soi-disant le plus intelligent.
Tout
alors
à fait.
Qu'on aurait pu faire un tri aussi pour les sensibilités.
Pour les...
Le classement.
Ah, le classement. Ben le...
Enfin, l'idée même de classement est assez ridicule.
Et d'ailleurs, j'ai dans mon autre vie été enseignante en sciences, et aujourd'hui les arbres d'évolution mettent effectivement toutes les espèces sur la ligne horizontale, et c'est très fort parce que c'est la vie qui est partie, qui s'est diversifiée, mais il n'est pas question de mettre l'un au-dessus de l'autre. Et je pense que ça, c'est ma vision de la planète d'aujourd'hui, avec interconnectée en réseau, mais il faut vraiment que les gens réalisent, mais je ne sais pas à quel tonnerre doit leur tomber sur la tête pour qu'ils réalisent.
Oui, il y a une espèce de... Pour l'instant, sous le coup d'une propagande aussi, de conditionnement, de réflexe.
Alors, tout à fait. Et cette société de consommation qui, dans les médias et dans l'esprit commun, a l'impression de faciliter la vie, ben en fait, c'est une sacrée obstruction pour que plein de gens se posent des questions. Et ça, c'est très dangereux. Et je pense que ceux qui sont dans les mouvements comme le nôtre aujourd'hui, ils sont là justement en train de changer leur grille d'analyse de cette société qui fait avancer la finance et non pas... qui tente de faire avancer la finance et de dégrader l'ensemble de l'humain.
Oui, et puis c'est une machine qui est devenue folle. On sent même qu'elle a échappé à ceux qui l'ont construite. Enfin... Il y a un système capitaliste qui est en train d'agoniser aussi. Dire ça au lieu de dire... Enfin, il y a des populations dans le monde entier qui se réveillent. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et les médias ont beau montrer en disant c'est des rebelles, c'est des... On voit bien que mondialement, les gens se soulèvent pour une autre vie.
Tout à fait. Et alors la question après, c'est comment on doit se soulever. Est-ce qu'on doit se soulever au point que l'oppression a été tellement importante que du coup la violence naît? Et ça, c'est inquiétant d'aller jusqu'à ce niveau-là. Et quand on voit les populations dans les favelas et autres, par exemple, y a la misère est à tel point qu'à un moment donné, on se dit est-ce qu'il ne faut pas cette... entre guillemets, révolution que certains prônent. Comment peut-elle se passer sans justement détruire quand même les embryons d'humains qui sont là et qui ne doivent pas être des marionnettes dans une révolution? Ils doivent être acteurs. Donc la révolution, pour moi, elle est au quotidien, avec des perspectives de faire ensemble et ensemble. Mais tout ça, le mot, c'est vraiment... il faut que les gens échangent, se connaissent, s'ouvre à l'autre, et c'est les premières... pour moi, c'est le premier béaba qu'il faut apprendre aux enfants des tout petits et aux adultes à réapprendre ce qu'ils n'ont pas appris quand ils n'ont pas eu la chance.
Oui, et puis avec les nouvelles technologies, il y a une séparation. Une séparation des gens à travers la télécommunication. Et c'est vrai que c'est le contact. On l'a vu sur les convois.
Sur le convoi, c'est rouler l'un à côté de l'autre et puis ne pas être obligé d'échanger un regard, mais être amené à échanger sur ce que tu vis, ce que je vis, et cette reconnaissance qui est magique.
Oui, il y a un côté de sensation de famille.
Chaque fois
qu'on se recroisera, il y aura une intimité bien forte.
Et dans le sens de l'anonymat que les occupants de la ZAD cherchent, on n'est pas obligé de finir une conversation, commencer une conversation, ni même la finir par « tu t'appelles comment ?». C'est pas grave, le sourire suffit dans la communication. Et surtout, la communication, le fait d'être non nommé, permet de réaliser la diversité, de la diversité de toutes les expériences qui font, on pourrait utiliser le vocabulaire, l'humus de la lutte de demain.
Oui, et puis que ce qu'on dit pourrait être dit par quelqu'un d'autre.
Ah, tout à fait. Mais, et même, on est très pauvre parce que à pouvoir donner des mots dessus, il y a des émotions qu'on ne peut pas traduire. Cette émotion d'avancer tous ensemble, là, elle est... Je sais pas, je pense qu'elle nous nourrira pour la suite de nos axes. Et aujourd'hui, elle a dû faire bouger des gens dans leur tête et donc dans leur comportement de demain, même à l'intérieur du convoi, je pense. L'expérience qu'on a vécue sur la première arrêt policière, moi, ça m'a raccroché en me disant à ceux qui vivent ça régulièrement. Et donc, il fallait qu'ils réalisent. Et j'ai assisté à chaque fois. Je dis, vous vous rendez compte, nous, on a capable de survivre ça parce qu'on a la solidité et une bonne carte de visite. Mais ceux qui en vivent ça en permanence. Et hier soir, j'imaginais que comme on était bloqué par rapport à l'Île-de-France, ben on allait peut-être marcher comme on était en convoi tout à l'heure, comme les convois roms que j'ai vu circuler sur ma commune, qui divaguaient d'une commune à l'autre parce que les flics leur empêchaient de rentrer dans cette commune-là avec un barrage, etc. Et j'avais presque l'espérance qu'on soit amené à vivre un moment comme ça parce que ça permettrait d'aller plus loin même que le combat de Notre-Dame-des-Landes. Parce que du coup, c'est toutes ces populations qui sont écartées de la normalité. C'est encore plus fort que ça, quoi. Indésirable sur un territoire. On était devenu indésirable. Mais, on n'a pas été juste. Bon, je ne sais pas si le groupe était capable de le vivre, mais je pense que ça aurait encore été créé. Ça aurait créé encore autre chose. Parce que, on a eu beaucoup de chance. Même dans les...
Ça aurait peut-être radicalisé des gens qui, au départ, ne se sont peut-être jamais posé la question de pourquoi certains sont radicaux. Des fois, il y a des événements comme ça qui permettent de comprendre d'autres types de réactions qu'on aurait soit à rester peut-être plus pacifiste.
Ben, c'est un petit peu l'idée l'autre jour, quand on a été arrêté par les flics. Certains disent, mais moi, je peux aller devant, laissez-moi aller, moi, je peux aller donner mon identité, c'est pas un souci. Je dis, mais tu as réalisé que non, on est tous ensemble, parce qu'en fait, là, c'est le groupe qui n'a pas, qui a une identité et qui ne souhaite pas qu'on rentre dans son identité. Par contre, c'est sa diversité qui est la richesse.
Oui, c'est le collectif qui est fort, du coup, plutôt que l'individu pointé du doigt.
Et puis, dans ce collectif, alors, nous, on vit un mini-collectif ici. Parce que toute la lutte, là, par exemple, on va retrouver le quart de la coordination. Ils n'auront pas vécu ça avec nous. Mais des membres qui sont ici pourront témoigner, pourront réexpliquer comment il faut qu'on ait confiance dans le groupe et confiance dans cette avancée collective, quoi, le travail avec... Enfin, qui était déjà semé, on n'est pas la première expérience. Mais c'en est une nouvelle qui fait qu'on a fait route ensemble et on pourra continuer à faire route ensemble. C'est vraiment magique.